Alors, on est parti. Bonsoir à tous. Alors, on va démarrer ce soir. Donc, la semaine dernière, on avait fini les proverbes. Donc, on va parler d'autre chose. On va démarrer un livre et puis on va voir le temps qu'on y restera dessus. Ce soir, on va juste. Pouf, voilà. Donc, Recording in progress. C'est bon, ça y est. Moi, c'est arrivé un peu en décalage. Voilà, donc en fait ce soir on va commencer, on va voir le livre de l'Exode et en tout cas on va commencer à voir les premiers chapitres et en tout cas ce soir certainement le chapitre 1 et chapitre 2, on va lire un peu et en tirer quelques idées. Juste peut-être avant de démarrer de lire donc Exode 1 et puis 2. Peut-être quelques petites choses à dire. Je trouve déjà que le personnage principal de ce livre, qui est Moïse, est quand même un personnage assez extraordinaire dans le sens extra et ordinaire. Il n'est pas ordinaire, tout simplement. Il y a un auteur, je crois que c'est Saint-Augustin, qui a dit de Moïse, en fait, quand vous lisez Actes chapitre 7, il y a une espèce de résumé de la vie de Moïse. Bon, on va dire grosso modo, en tout cas au moins le début et une bonne partie. Et dans ce résumé, donc, on s'aperçoit que la vie de Moïse s'est découpée en 3 fois 40 ans. Donc une première quarantaine d'années qui nous amène jusqu'au moment où Moïse, étant à la cour d'Égypte, va voir il va voir les Hébreux, donc ses frères de sang. Il voit la condition qui est la leur. Bon voilà, il se passe ce qui se passe, on le verra plus tard, peu importe. Déjà, vous le savez, mais on le lira plus tard. Et donc, c'est une première tranche de 40 ans. Il y a une deuxième tranche de 40 ans, c'est celle qu'il passe dans le désert de Madian, donc avec Jéthro, ses filles, et notamment celle qu'il épouse, c'est-à-dire Séphora, où il a 2 enfants. Et la troisième période de 40 ans, c'est évidemment celle qu'il va à nouveau vivre essentiellement dans le désert avec le peuple qu'il aura fait sortir d'Égypte. Et donc, ça fait 3 périodes de 40 ans. Et c'est intéressant parce qu'en fait, les 2 premières périodes, elles sont décrites là dans les 2 premiers chapitres de l'Exode. Et après, vous avez tout le reste qui va concerner finalement la suite, les 40 dernières années de sa vie. Ça nous donne une petite idée, c'est que. Tout est important avec Dieu, mais peut-être que Dieu ne met pas autant d'importance aux endroits où nous on y met de l'importance dans nos vies, puisque quelque part, si on voulait être un bon écrivain et faire une bonne biographie fiable de Moïse, ben on aurait peut-être pris quand même plus de place sur les 40 premières années, sur les 42e, et puis forcément une partie conséquente sur la troisième. Sauf que ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu regarde? Et ce que Dieu regarde, ben manifestement, c'est surtout la troisième période de 40 ans. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est l'intérêt essentiel du livre de l'Exode et c'est l'intérêt qu'il y a dans l'apport que ça a dans la Bible, tout simplement. Mais une chose intéressante qu'a dit Saint-Augustin, je vais essayer de vous le paraphraser de manière pas trop mauvaise. En fait, il a dit Moïse a passé les 40 premières années de sa vie à croire qu'il était quelqu'un. Il a passé les 40 années suivantes à croire qu'il n'était rien. Et il a passé les 40 dernières années de sa vie à voir ce que Dieu était capable de faire avec rien. Et je dirais que quelque part, c'est un peu un résumé d'un processus qui, je crois, se réalise en fait régulièrement et en boucle dans nos vies. Dieu est obligé, à travers les situations de la vie, à travers le fait qu'il nous parle dans sa parole, dans les situations et autres, le travail qu'il fait dans nos cœurs, et bien en fait, il est obligé de nous montrer que nous ne sommes rien alors que nous pensons être quelque chose. Et ensuite, il essaye de nous amener dans le fait que lui est capable de faire quelque chose avec ce rien que nous sommes. Et ça, c'est un petit peu la vie chrétienne, si on peut dire. Donc, c'est une espèce de résumé quand même assez intéressant pour nous, de la vie de Moïse. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Moïse, donc on ne va pas les dire tous ce soir, on va y aller doucement, et on va démarrer par le commencement. Mais encore une fois, avant ça, vous savez, une question qui est assez intéressante à se poser avant de démarrer la lecture d'un livre biblique, c'est quel est l'intérêt? Alors, la question, je dis la poser avant de le lire, mais en fait, il faut l'avoir lu pour pouvoir la poser, en réalité, parce que sinon, vous ne pouvez pas y trouver de réponse. Mais ce n'est pas grave. En le lisant, en tout cas, c'est bien peut-être d'avoir en tête et de se dire, tiens, quel est l'intérêt de ce livre dans la Bible? Pourquoi ce livre est dans la Bible? Alors là, je parle de l'Exode, parce que nous allons parler de l'Exode ce soir. Nous en reparlerons à quelques autres occasions dans les jours à venir, mais n'importe quel livre que vous lisez de la Bible. Une chose qui peut vous aider à comprendre ce qu'il y a à comprendre dans un livre biblique, c'est pourquoi est-ce qu'il est écrit? Alors déjà, par qui, à qui, mais pourquoi il est écrit? Quel est le but du livre? Quel est l'intérêt qu'il a dans la Bible? Parce que c'est vrai qu'il y a des livres, ce n'est pas forcément le cas de l'Exode. Mais on peut se demander quel intérêt ils ont, qu'est-ce qu'ils apportent de plus dans la Bible. Hein. Donc voilà. Alors ça, c'est une chose intéressante. Et du coup, quand on veut répondre à cette question-là de manière très ramassée par rapport au livre de l'Exode, vous savez, le thème central de l'Exode, en fait, c'est le thème central de la Bible. C'est la rédemption. Voilà, la rédemption, si on peut donner un thème principal à ce livre. C'est la rédemption et en fin de compte, oui, voilà, le thème central de la vie humaine et de la Bible dans son entier, c'est la rédemption, le rachat, le salut, appelez ça comme vous voulez. Et c'est pas mal parce qu'en fait, ça fait ce livre, ça fait, bon, je grossis un peu le truc, mais ça fait un petit peu quand même un petit parallèle avec nos vies parce que si on dit que c'est le rachat et c'est le salut, ben finalement, ça s'opère assez vite dans le livre. L'événement qui est le salut, la délivrance, voilà, donc, bon ben, l'exode, la sortie d'Égypte, hein, l'exode, évidemment. Donc, pareil pour notre vie, c'est quelque chose qui prend pas forcément toute une vie pour se convertir. Mais par contre, le salut, le rachat, tout ça, dans la pensée de Dieu, c'est pas juste ce moment ponctuel. Le salut dans la pensée de Dieu, c'est pas juste, et c'est pas que juste d'ailleurs, Jésus-Christ mort sur la croix. C'est quel est le but du salut pour Dieu? C'est en fait ce que Dieu veut faire avec nous. Le salut, c'est pas juste le moment où nous sommes sauvés, c'est ce que Dieu va transformer dans notre vie par la suite, ou ce qu'il se propose en tout cas de transformer, et ce qu'il a rajouté, en valeur ajoutée dans nos vies. Et ça, c'est aussi intéressant parce que dans le livre de l'Exode, on s'aperçoit que la deuxième partie du salut avec ce peuple d'Israël, elle est quand même très chaotique. Elle est quand même très chaotique. On en reparlera peut-être plus tard, mais enfin pas aujourd'hui, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais c'est quand même très chaotique parce que finalement, ils sont délivrés d'Égypte. Donc, image du péché, du monde, le diable, ça, tout ce que vous voulez, comme nous sommes délivrés de notre vieille nature par le salut en Jésus-Christ. Et ensuite, le but, c'est d'aller en Canaan. Et finalement, ben, en tout cas, ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas dans le livre de l'Exode qu'ils y arrivent. Ils y arriveront un petit peu plus tard. Hein? Bon, Moïse ne va même pas y rentrer pour le coup, mais ça, c'est des raisons qu'on peut discuter à un autre moment. Mais en tout cas, voilà. Et ce qui veut dire que ben nous ça peut, je ne dis pas que ça doit être, au contraire, ça ne doit pas être. Mais il peut arriver que ça soit un peu, pour certains chrétiens, la même chose. Je me suis converti, c'est un claquement de doigts, et le reste de ma vie, ben, c'est peut-être une vie dans le désert. Et ce qui est intéressant dans la vie dans le désert, c'est que finalement, Dieu est là malgré tout. Mais ça ne doit pas être une excuse. Parce que si Dieu est là malgré tout et c'est une excuse, résultat, je ne vais pas forcément me remettre en cause pour rentrer en Canaan, pour aller plus loin dans le salut, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors on va revenir à, pas à nos moutons, mais on va revenir au début de ce qu'on devait lire, hein, tout simplement. Et juste, je vais lire et puis je vais m'arrêter par moment et commenter, avancer un petit peu comme ça. Donc Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays, verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et Ramsès. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux. Bon, on continue un petit peu. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi au. Alors voilà, donc première partie, on va s'arrêter un petit peu séquencé, quand même, ça va être un peu plus simple. Voilà, donc première partie, voilà, d'où les Hébreux arrivent en Égypte, on le sait, de la fin de l'épisode de la Genèse, avec donc Joseph en Égypte, premier ministre qui fait venir Jacob, Israël, avec tous ses fils. Et voilà, ils vont mourir, les siècles vont passer, les Hébreux vont se multiplier, et ça va commencer à être un problème de société pour l'Égypte, un problème de racisme aussi quelque part, mais là n'est pas le sujet. En tout cas, la chose qui se passe, c'est que du coup, les Égyptiens prennent en aversion les Hébreux et les accablent de travaux. Deuxième stratégie pour, on va dire, maintenir les Hébreux, c'est ce que nous allons lire à partir du verset 16. Fin 15, pardon, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shiphra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette deuxième partie? La deuxième stratégie de Pharaon, c'est d'exterminer les enfants mâles. Et donc ça, c'est ce que nous allons voir après. Ça se passe au moment où il va y avoir la naissance de Moïse. C'est assez intéressant parce que cette stratégie-là, elle peut nous faire penser, je ne vais pas développer pendant des heures, mais elle peut nous faire penser quand même à la politique d'avortement qu'il y a dans les pays dits développés de manière mondiale depuis pas mal de temps. C'est une autre manière de le faire. Mais et pour des raisons certes différentes, mais tout de même, c'est assez intéressant de voir cela. Et donc, le troisième point de la stratégie de Pharaon, c'est de dire, puisque finalement, les sages-femmes, elles n'ont pas obéi et que donc les enfants n'ont pas été tués de manière massive comme c'était prévu, ils demandent aux Égyptiens, eux, de carrément les jeter dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un climat quand même très compliqué en Égypte, entre les Égyptiens et les Hébreux. Un point sur lequel je veux m'arrêter quelques instants, c'est quand même ces sages-femmes. Je ne vais pas y rester 30 ans, mais quand même, premièrement, le nom de ces. Ah bon, évidemment, les deux sages-femmes dont tu as parlé, on va dire, ce sont les responsables des sages-femmes. Il ne devait pas y en avoir que deux, je pense. Il y avait un peu de monde, hein, vu la population que l'on comprend qu'il doit y avoir par la suite. Forcément, il y avait plus de monde que simplement dire. Il y avait juste Shifra et Pua. Forcément, il y avait plus de monde. Mais premier point intéressant, c'est que ces deux femmes, elles sont nommées. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans la Bible. Même des gens qui ont fait des bonnes choses ne sont pas toujours nommés. Elles sont nommées. Et qu'est-ce qu'elles ont fait de bien? Eh bien, elles ont obéi à Dieu plutôt qu'à l'homme. Mais pour un motif, je dirais, qui était rédhibitoire. C'est-à-dire que des fois, peut-être les chrétiens, ils sont là et puis. À notre époque, par exemple, ils vont décider de désobéir aux autorités, mais j'appellerais ça quelque part un petit peu pour des peccadilles, en fait. C'est pas pour obéir à Dieu, en fait. Parce qu'en fait, ce que l'autorité demande n'est peut-être pas forcément un vrai gros problème. Ce n'est peut-être pas super génial, mais ce n'est pas un gros problème. Ça peut peut-être se justifier, oui ou non, j'en sais rien. Ça dépend. Souvent, je ne suis pas habilité à le savoir, d'ailleurs. En tout cas, je n'ai pas vraiment les capacités objectives pour le savoir. Et je dis, oui, moi, j'obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Non, non. Dieu, il te dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais sur des choses qui sont fondamentales. Ici, il est question de la vie d'enfant. Quand on parle, par exemple, quand ce verset-là est cité dans le livre des Actes, c'est par rapport au fait d'annoncer l'évangile. C'est pas par rapport au fait de vivre plus confortablement ou d'être persécuté à son boulot ou qu'il y a telle loi dans la société qui est contraignante et qui est quand même pas trop équitable, on va dire, ou pas très juste. Non, non, c'est pas ça. Là, ici, il est question de vie humaine et dans l'autre cas, il est question de pouvoir annoncer l'évangile. Ce qui fait partie de notre vie, tout simplement. Hein? Donc, c'est quand même intéressant de voir ça, et puis voir quand même, parce que ces femmes-là sont quand même courageuses, et un point quand même qui me... Alors, je ne vais pas dire qui me plaît, mais je pense que c'est bien de le voir, de le noter, et d'y réfléchir sans malice. Sans malice. Un chrétien ne doit pas mentir. Mais quand je lis ce que je viens de dire là, d'une certaine manière, elles ont menti. Et il y a d'autres endroits dans la Bible où des gens ont menti pour défendre, comme je dirais, comme dit l'expression courante en français, la veuve et l'orphelin, quelque part. Donc, je pense que ça, c'est intéressant de le voir sans en faire une grande règle fabuleuse, un grand dogme, ou etc. Mais je pense que des fois, dire des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, pour défendre, je dirais, le faible et pour défendre la vérité, c'est peut-être pas considéré comme étant un mensonge devant Dieu. Une chose que je rajouterais à cela, c'est que là, j'ai pas le verset, mais quand vous lisez dans la suite de l'Exode, dans la loi, quand il est parlé du mensonge, il est parlé de, il ne faut pas mentir avec le but de tromper la personne. Je ne dois pas mentir avec comme but de tromper la personne. Là, la question, en fait, là, l'objectif, ce n'est pas de tromper Pharaon. L'objectif du, entre guillemets, mensonge, c'est de défendre, c'est de sauver des vies innocentes. L'objectif, ce n'est pas de tromper Pharaon pour qu'il soit piégé. L'objectif, c'est de défendre des vies innocentes. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce qui nous ramène à une chose plus globale dans la vie chrétienne, quelle est ma motivation lorsque je fais telle ou telle chose? Quelle est ma motivation lorsque j'obéis? Quelle est ma motivation quand je m'engage dans un chemin ou dans un autre, ou quand je ne m'y engage pas. Quelle est ma motivation? Donc voilà, on va continuer, juste quelques petites réflexions à cet égard. Donc vous voyez, chapitre 1, en fait, par rapport au découpage de la vie de Moïse, là, si vous voulez, bon là, on est même pas encore sur la naissance de Moïse. Là, en fait, en un chapitre, on a déjà relaté 4 siècles. Puisqu'en fait, on va de Joseph en Égypte jusqu'à la naissance de Moïse. Et on sait qu'il y a un peu plus de 4 siècles. Ça nous est prophétisé dans la fin de la Genèse et après on peut le recalculer par la suite. 430 ans, je crois. Ensuite, donc, on va rentrer dans la suite de l'événement. Au chapitre 2, ça va être la naissance de Moïse. Donc il est dit, un homme de la maison de Lévi avait pris, pardon, pour femme une fille de Lévi. Donc un Lévite prend une Lévite. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant, le déposa, pardon, parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Je m'arrête là quelques instants. Plusieurs choses. La première chose sur laquelle je veux m'arrêter, il est dit, je crois, au moins 3 fois dans la Bible, que les parents de Moïse ont vu que l'enfant était beau, et apparemment, c'est ceux qui, enfin, en tout cas, dans la manière dont la phrase est formulée à 3 endroits, ici, dans les Actes, et je crois une fois dans les Psaumes. Il est dit donc, cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Elle vit qu'elle était beau. Donc apparemment, Si je lis la phrase bêtement comme elle est écrite ici et ailleurs, la mère voit que l'enfant est beau et elle le cache. Si je m'arrête là, en fait, je lis une phrase qui est très stupide, qui est vraiment très stupide. Parce qu'une mère, même si son enfant il est moche, je pense qu'elle va le cacher. Bon, sauf celles qui mettent leurs enfants dans les congélateurs, mais ça, c'est un autre problème. Et qui est jusqu'à présent relativement rare. Mais vous voyez, donc ce que je veux dire par là, c'est que de voir que l'enfant est beau, en fait, c'est stupide de prime abord. Parce que toutes les mères voient leur enfant comme étant beau. L'enfant, il naît, il est beau. Quand vous voyez un nouveau-né, qu'est-ce que vous dites, même si ce n'est pas votre enfant? Vous dites, ah, il est beau, il est beau. Oui, non, mais d'accord. Donc, en fait, il y a quelque chose d'autre derrière cette phrase. Je pense que très simplement et sans faire de grandes extrapolations, je pense que c'est plutôt ce qu'on doit plutôt comprendre, c'est que les parents de Moïse, et notamment là sa mère, mais bon, ses parents, parce que là, ils étaient un peu dans le même bateau, là, si j'ose dire, ils ont vu que l'enfant était beau, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Ils ont eu la vision de Dieu sur cet enfant. Et donc, ils ont voulu le protéger. D'abord par, je dirais, sentiment naturel, mais aussi parce qu'ils ont eu, et c'est le point sur lequel il y a une insistance qui est faite, ils ont eu une vision plus élevée, ils ont eu un regard différent, plus élevé, un regard qui était spirituel et un regard qui était celui de Dieu sur cet enfant. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un effort. Une deuxième chose que je voudrais dire, avant de commenter la suite des versets que j'ai lus ici, une chose que je n'avais pas réalisée jusque-là, parce que peut-être que je ne suis pas un bon lecteur ou pas très intelligent, je ne sais pas. En général, quand je lisais les deux premiers chapitres de l'Exode, moi, dans ma tête, c'était un peu, il y a l'ordre de Pharaon d'exterminer les enfants, enfin les mâles hébreux. Et en fait, dans ma tête, c'était un petit peu comme si il n'y a que Moïse qui a survécu parce que Dieu l'a fait survivre, parce qu'il voulait l'utiliser pour sauver le peuple. Mais en fait, dans ce qu'on vient de lire, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que Moïse qui a survécu, puisque les sages-femmes ont épargné plein d'enfants, plein de mâles. Alors, il y en a d'autres qui ont dû passer à la trappe, hein, ça j'imagine bien. Il y a peut-être des Égyptiens qui sont passés encore derrière et qui ont dénoncé, qui ont été. Non pas maltraitants, mais carrément des assassins, etc. Enfin bref, il y a dû y avoir des situations complètement dramatiques, mais il n'y a pas que Moïse qui a été sauvé. Il n'y a pas que Moïse qui a été sauvé. Et ça, donc, bon, c'est intéressant de voir que Dieu, comment dire, Dieu a un objectif particulier pour chacun de nous, et en même temps, comment dire, Dieu ne va pas se limiter de sauver d'un massacre uniquement Moïse parce qu'il a un projet tout particulier pour Moïse. Il a permis qu'il y ait quand même d'autres qui soient sauvés et pour lesquels d'ailleurs il avait aussi des projets particuliers mais qui n'étaient pas de la dimension certainement que l'on peut constater dans la vie de Moïse puisque Moïse a quand même une vie qui nous reflète une lecture quand même particulière comme je vous ai dit au début. C'est quand même un personnage extraordinaire, selon l'étymologie du terme. La suite ici est intéressante, il est dit, donc ne pouvant plus le cacher, là c'est pareil, pourquoi il ne pouvait plus le cacher? Je ne sais pas. Probablement que c'était peut-être plutôt un problème par rapport aux Égyptiens qui étaient autour. Peut-être plutôt un problème de dénonciation ou de choses comme ça, je ne sais pas. Parce que si c'était, il ne pouvait plus le cacher parce que l'enfant, il pleurait, il criait trop. Bah, excusez-moi, je pense que les 3 premiers mois, il devait déjà faire beaucoup de bruit. Donc, il devait déjà avoir le même problème pour le cacher. Donc, enfin, en tout cas, quelles que soient les raisons, elles ne sont pas précisées. Ils ont réussi à le cacher pendant 3 mois et à un moment donné, la situation, pour X raisons qui finalement ne nous intéressent pas, ils ne pouvaient plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, la mère l'a mis dans une caisse de jonc et elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant, elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Là, c'est pareil. L'idée préconçue qu'on a et que j'avais, c'était de dire, tiens, elle l'a mis dans un panier, elle l'a balancé dans l'eau et puis advienne que pourra. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. D'abord, bon, évidemment, le panier était protégé. Deuxièmement, elle n'a pas juste bazardé sur l'eau et puis le cours du fleuve va l'amener selon la destinée que Dieu voudra. Ce n'est pas exactement ça. Elle l'a posé à un endroit précis. Elle l'a posé au milieu des roseaux. À un endroit justement où il ne va pas dériver vite, de suite et n'importe où. Et quand on lit la suite ici, c'est très intéressant, il est dit, verset 4, la sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Alors, je m'arrête quand même là. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la mère de Moïse, en fait, quand elle a mis Moïse dans le panier et qu'elle l'a posé au milieu des roseaux sur l'eau, elle n'a pas abandonné son enfant. Elle avait un plan qui pouvait ne pas marcher, qui, je dirais naturellement, et on va le voir juste après, il aurait dû ne pas marcher. Mais dans la providence de Dieu, il a fonctionné le plan. Pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi la sœur, elle suit le panier? Parce qu'elle doit intervenir un petit peu plus tard dans l'histoire. Elle a encore un rôle à jouer, la sœur. D'ailleurs, par rapport juste à l'avortement que j'ai dit en deux mots tout à l'heure, les parents de Moïse, quand Moïse est né, ils en avaient deux autres. La sœur ici, dont il est parlé, et on sait qu'elle s'appelle Myriam ou Marie plus tard, mais on sait qu'il y a un autre enfant mâle qui est né 2 ans avant, c'est Aaron, puisqu'on sait très bien que Aaron va retrouver Moïse plus tard, et on sait qu'il a 2 ans de plus que son frère. Hein? Donc ça veut dire que c'était déjà une fratrie de trois. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des fois, par convenance, confort, je ne sais pas ce que vous voulez, l'ambiance dans laquelle nous vivons depuis peut-être un siècle et des poussières, par rapport à l'avortement, je veux dire, c'est beaucoup une question de confort. On a déjà deux enfants, mais normalement le troisième, on l'avait pas prévu, il arrive, bon ben, on enlève la tâche. Ben, si je suis un croyant et si je me retrouve dans cette situation-là, ben j'enlève pas la tâche parce que Dieu me dit que c'est pas une tâche. Je ne comprends pas tout, mais je ne sais pas quand est-ce que commence la vie. Et si je ne sais pas quand est-ce que commence la vie, je sais qu'une fois que deux cellules ont fusionné et qu'elles ont fait un œuf, je peux penser qu'il y a quelque chose qui peut s'appeler la vie. Et donc, je ne suis pas habilité à agir dessus. Voilà. Après, vous savez, je dis ça parce que enfin, c'est pas trop mon truc de parler d'avortement. Mais un truc, je m'aperçois quand même que, enfin, je m'aperçois, vous allez dire, je suis un petit peu naïf, mais qu'on va vraiment vers des temps qui ne sont pas sympathiques dans nos sociétés qui ont été, on va dire, plutôt dans une croissance constante depuis le 19e siècle. Et notamment, en fait, vous savez, la technologie, la radiologie, etc., qui permet de connaître le sexe de l'enfant avant, qui permet. De savoir s'il y a des malformations, de savoir un petit peu s'il y a telle ou telle maladie dans le ventre de l'enfant. Ben, peut-être qu'un jour, ça sera obligé de faire ces radiologies pour être obligé de supprimer l'enfant et on ne laissera pas le choix aux gens. Et ben, les parents qui sont chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont faire comme les deux sages-femmes ou est-ce que ça sera trop compliqué? Ça sera un choix. Personnel de chacun devant Dieu. Et là, par contre, ça sera un vrai choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça ne sera pas une question de masque à mettre, de vaccin à faire ou de choses beaucoup plus, on va dire, légères. Légères. Je ne dis pas que c'est forcément absolument inoffensif, etc., mais peut-être plus léger et plus difficilement discutable surtout. Alors que là, il n'y a pas grand-chose de discutable. Alors, on continue. Donc, la fille de Pharaon descendit. Non, voilà, verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, la voyez, elle avait encore un rôle à jouer dans la pièce de théâtre. La sœur de Moïse, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ces quelques versets sont assez incroyables. Donc effectivement, il y a la stratégie de la mère de Moïse, qui d'ailleurs, je pense, est la stratégie des parents de Moïse, parce que je pense que dans cette situation-là, ben, quand il y a un couple, il fonctionne à deux et d'accord sur les décisions à prendre, parce que c'est quand même assez aigu. Il y a une stratégie avec la fille qui vient intervenir ici, mais là où il y a la providence de Dieu et là où c'est fabuleux, en fait. Et peut-être le petit point sur lequel je vais peut-être vous laisser ce soir, parce que je ne répète pas aussi loin que ce que j'avais prévu, à moins que je prenne un raccourci. La chose que je trouve assez fabuleuse, c'est qu'en fait, Moïse, même dans la stratégie de sa mère, il tombe, normalement, il tombe dans les mains de l'ennemi, en fait. Les parents de Moïse, pour sauver Moïse, parient sur une intention de l'ennemi. Il tombe dans les mains de la fille de Pharaon. Normalement, la fille de Pharaon, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire en voyant un enfant hébreu, mâle? Parce que là, il nous est pas dit, tiens, c'était un bébé, un enfant, et puis elle est prise en pitié et elle le prend. Non, non, elle a vu que c'était un enfant hébreu. Elle aurait dû le noyer. C'est ce que son père a décidé. Elle aurait dû le noyer. Et elle ne l'a pas fait. Alors pourquoi, comment, on n'en sait rien. Toujours est-il, Dieu a permis que ça se passe ainsi. Et quelque part, les parents de Moïse ont parié là-dessus. Et ça a marché. Et le point que je voudrais donner pour nous, vous savez, des fois, il y a certains, comment dire, il y a certains, on va dire, églises dans le christianisme qui mettent beaucoup l'accent sur peut-être les miracles, l'extraordinaire, les choses comme ça, etc. Moi, j'appellerais ça plutôt le magique plutôt que le miracle. Et en fait, ce qu'eux appellent miracle, moi, j'appelle ça plutôt de la magie. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu ne fonctionne pas avec nous en faisant de la magie. Il intervient de manière providentielle et quelquefois, il fait des miracles. Et ce que je veux dire par là, c'est que ici, évidemment qu'il y a la main de Dieu dans cette situation-là. Sinon, cet enfant-là aurait dû être noyé de suite. On retournait le panier et il était coulé. C'est ce qui aurait dû arriver. Ce n'est pas arrivé grâce à la providence de Dieu, parce que Dieu l'a permis, parce que Dieu l'a voulu. Appelez ça un miracle si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, ce n'est pas la magie qu'on prétend généralement. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu intervient dans notre quotidien. Dieu ne passe pas son temps à faire des choses en dehors de cette vie. Un miracle, c'est exceptionnel, c'est rare, et c'est une intervention de Dieu à l'extérieur de ce monde qui vient bousculer quelque chose, une norme dans ce monde. Là, Dieu n'a pas bousculé les lois de la physique, hein. Il n'a pas transformé l'eau en vin. Il n'a pas rendu voyant un aveugle ou muet un sourd. Non. Mais il y a quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, qui arrive. Dieu est intervenu dans le cours du temps normal de l'être humain. Et je pense qu'on a besoin de chercher ce Dieu-là plutôt que le Dieu magicien que certains croyants, des fois c'est même pas des croyants, mais au moins restons sur les croyants, veulent nous présenter et ont tendance à rechercher. Je ne cherche pas un Dieu magicien, je cherche un Dieu providentiel qui intervient dans le cours de ma vie. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et c'est la chose sur laquelle je vais vous. Je ne vais peut-être pas m'arrêter de. Je vais peut-être lire un peu la suite et faire un petit commentaire, mais je n'irai pas beaucoup plus loin, en fait. Donc, le point important, je pense, c'est celui-ci, c'est cette situation avec la fille de Pharaon. Dans le cours d'une vie, de même de plusieurs vies, de l'histoire tout simplement, Dieu intervient. Et Dieu intervient aussi parce que les gens prennent des décisions dans cette vie. L'enfant, ils auraient pu essayer de le cacher encore plus longtemps. Peut-être ça aurait mal tourné. L'enfant, ils auraient pu le mettre sur un panier sans mettre de protection dessous. Au milieu de l'eau, comme je le pensais, et puis il serait parti, et ça aurait pas été la fille de Pharaon qui va le récupérer, ça aurait été, je sais pas qui. Ou peut-être le panier aura basculé, il sera mort. Ou c'est un animal qui l'aura récupéré, puis ça aura fait Tarzan. Non, je rigole. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait pu être autre chose. Mais non, là, vous avez des gens qui, dans le concret de leur vie, prennent des décisions avec Dieu. Réfléchissent sur qu'est-ce qu'ils ont à faire dans leur vie et dans les situations qui sont les leurs et qui sont, pour le coup, très compliquées, très pointues. Et derrière, Dieu met sa main et il se passe des choses qui sont effectivement extraordinaires. Non pas magiques, mais extraordinaires. On va juste lire les quelques versets qui suivent et on va pas vraiment trop les commenter, on en parlera mercredi soir. Au verset 11, en ce temps-là, Moïse devenu grand, donc là en fait on arrive 40 ans plus tard, le début de la deuxième phase de la vie de Moïse quelque part, ou le moment où ça va basculer sur la deuxième partie, puisque du coup pendant les 40 premières années, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a été élevé, il sait d'où il vient, mais il a été élevé dans la famille de Pharaon comme un Égyptien, avec la connaissance et les capacités voulues pour écrire le livre de l'Exode et pour guider le peuple dans le désert et pour être capable de discuter avec le pharaon avec lequel il faudra discuter 40 ans plus tard, en fait, et qui sera pas forcé, et qui sera pas celui-ci d'ailleurs, qui sera pas celui qui est à l'époque du Moïse en Exode 2:11. Donc en ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se quereller. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Je m'arrête là, on verra la suite mercredi soir, mais juste la chose encore à donner, juste pour terminer là, ici, pour ce soir. Ici, on voit qu'au bout de 40 ans, où Moïse a été élevé comme un Égyptien, mais sachant d'où il vient, à un moment donné, il va voir ce qui se passe dans le concret, il va aller voir le bas peuple, si on peut dire. Et en l'occurrence, le bas peuple, ce sont ses compatriotes de sang. Il va voir, et en réalité, ce qui se passe à cet endroit-là, à 40 ans, c'est que Moïse devine le plan de Dieu pour sa vie. Ou il le devine, ou alors il se le crée dans son imagination. Mais même si c'est dans son imagination, il s'avère que la finalité de l'imagination de Moïse est effectivement le plan de Dieu pour sa vie. Donc soit il devine ce que Dieu veut pour lui, soit il s'imagine des choses parce qu'il pense être quelqu'un de particulier, on va dire. Et effectivement, il est particulier puisqu'il est élevé comme un Égyptien, mais c'est un Hébreu, il est sauvé du massacre, et effectivement, il est un peu le trait d'union dans cette société, et c'est ce trait d'union-là que Dieu va utiliser. Et lui pense effectivement qu'il doit être utilisé pour son peuple. Est-ce qu'il le pense parce qu'il devine la pensée de Dieu sans l'avoir entendu? Ou est-ce que simplement il l'imagine et ça correspond effectivement en finalité à ce que Dieu veut? Mais dans tous les cas, Moïse se retrouve à cet endroit-là, mais il se retrouve à cet endroit-là, comment dire, seul avec ses ressources. Et ce Moïse seul avec ses ressources va échouer. Va échouer. Il va vouloir faire justice, il va vouloir faire comprendre au peuple qu'il est l'homme de la situation, et ça ne prend pas plus que 24 heures pour que tout tombe, tout part de travers, en fait. Et du coup, il fuit dans le désert de Madian, il va retrouver, on le lira plus tard, donc Jéthro, et nous verrons la suite de l'histoire. Mais en tout cas, intéressant de voir que voilà, ce Moïse qui est sauvé des eaux, il est effectivement l'homme providentiel, il le réalise ou il l'imagine, et Dieu va effectivement le faire, mais peut-être pas dans le timing de Moïse, pas forcément à la manière de Moïse, et pas forcément avec et sûrement pas avec les ressources de Moïse. Et dans notre vie, c'est pareil. Des fois, peut-être que l'on devine ou on a à peu près compris la volonté de Dieu, mais nous n'avons pas imaginé comment est-ce que Dieu veut faire. Et surtout, je pense que nous avons peut-être imaginé ou deviné de manière correcte une partie du plan de Dieu pour notre vie, mais peut-être qu'il manque une chose. Je n'ai pas entendu Dieu me parler. Je n'ai pas eu Exode 3. Donc, Exode 3, ben, on en parlera plus tard. Amen pour ce soir.